Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur la première. Bienvenue à Libre Ensemble, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce studio. Jacques Nizin a la technique, doux comme un agneau, mais efficace comme un militant, un véritable pacifiste quoi. Catherine Axe au micro, dans ces temps tourmentés, et oui, nous avons pris le pari de parler de la paix ce soir. On rend régulièrement hommage aux Belges qui ont versé leur sang pendant la guerre, mais qui se souvient de ceux et de celles qui ont lutté pour la paix? Combien se rappellent que la Belgique compte 4 prix Nobel de la paix et que des pacifistes belges ont largement contribué à la création d'institutions internationales visant à empêcher les conflits? Et si on osait la paix? Une belle exposition à voir actuellement à la Cité Miroir de Liège rectifie cette lacune. On se doit donc de programmer très vite une visite dans les superbes lieux des anciens bains de la Sauvenière sur le boulevard du même nom à Liège. Et autour de moi, aujourd'hui pour en parler et faire une prévisite, j'ai le plaisir d'avoir Ludo Bettens. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Historien et directeur de l'Institut d'Histoire Ouvrière, Économique et Sociale. À vos côtés et à mes côtés, Jacques Guilaine. Bonjour Jacques.
Bonsoir.
Historien et responsable du centre d'archives de la Fédération Wallonie-Bruxelles Mundaneum, installé à Mons. On dit Guilaine ou Gilaine?
Gilaine.
Gilaine, je me suis trompée. Désolé.
C'est pas grave.
Allez. Vous êtes tous deux à l'initiative donc de cette belle exposition, car vos deux organismes sont intimement liés au pacifisme. Et si on osait la paix donc, qui va entamer ce débat? En faisant un brin d'histoire, ne vous battez pas messieurs, premier conflit à régler, comment instaurer une solution pacifiste pour ce soir? Allez, on va prendre Jacques, tiens, Jacques Gilaine, pour évoquer avec vous la naissance du Mundaneum à la fin du 19e siècle, sur l'initiative de deux Belges, dont un fut même prix Nobel de la paix et inventeur de l'ancêtre de Google, dit-on, n'est-ce pas? Qui était donc Henri Lafontaine, Jacques?
Alors, Henri Lafontaine est un sénateur socialiste, c'est un des premiers féministes dans l'histoire de la Belgique. Il a été franc-maçon et surtout c'est un pacifiste de première importance de la fin du XIXe siècle à sa mort en 1943. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1913 pour l'action qu'il mène au sein du Bureau international de la paix notamment. Et il a été au centre de la création de toute une série d'institutions pacifistes à cette époque.
Bien.
En Belgique.
Il a donc créé un tas de ce Mundaneum, on peut le dire, qui était à l'époque, disait-on presque, enfin dit-on aujourd'hui, l'ancêtre de Google. Pourquoi en fait? L'ancêtre papier, président.
L'ancêtre papier. Alors en fait, le premier objectif du Mundaneum, donc en 1895, lorsqu'il est créé, est de rassembler toutes les connaissances du monde en un endroit et de créer des outils pour diffuser cette connaissance. Donc Paul Otled, qui est le fondateur du Mundaneum avec Henri Lafontaine, va imaginer toute une série de techniques, la vidéoconférence, la consultation à distance d'un livre, l'utilisation du téléphone, de la radio. Donc on est au début du XXe siècle, donc ce sont des techniques qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore performantes. Il est extrêmement précurseur et donc c'est dans ce sens qu'on dit qu'il est un des précurseurs d'Internet et de Google.
Il y avait aussi le projet fou, mais qui ne vit jamais le jour, je pense, hein, d'une cité, je suis certaine même, d'une cité mondiale du savoir. Mais Le Corbusier avait quand même réalisé des maquettes et des plans, c'est assez impressionnant.
Alors effectivement, la cité mondiale d'Otley, c'était un peu l'aboutissement de l'évolution que devait suivre le Mundaneum. Dans son idée, le Mundaneum devait aboutir à la création d'une ville qui serait placée au-dessus des États, de la Société des Nations, etc., et dont l'idée était de favoriser la paix par la connaissance, avec en arrière-plan la conviction que plus les peuples se connaîtraient les uns les autres, moins il y aurait de sources de conflits.
Une belle idée, en effet.
Alors, plusieurs architectes ont travaillé sur ce projet de cité mondiale. Plusieurs endroits ont été envisagés. Mais évidemment, c'est un projet trop utopiste qui n'a jamais vu le jour.
Alors, une collaboration avec Google a quand même vu le jour en 2012. Expliquez-nous.
Oui, alors Google est installé à Mons, donc recherchait des partenaires dans la région. Et le Mundaneum s'est profilé comme un partenaire de choix puisque ça permettait à Google de s'ancrer d'un point de vue historique par rapport à cette histoire. Et donc un partenariat a été entamé qui vise à l'organisation de conférences, d'événements, etc.
Alors venons-en à l'exposition à Liège, qu'on peut visiter jusqu'au 21 février. Mais on verra tout à l'heure qu'on la verra aussi circuler dans d'autres villes. Ludo Bettens, toutes ces archives ont vraiment construit autour de trois thèmes principaux cette expo. Expliquez-nous ce qu'on peut y découvrir.
Alors cette exposition, elle comporte déjà deux espaces principaux, un aperçu historique et puis un espace d'interpellation citoyenne. Alors l'espace historique a été conçu par quatre historiens, donc Jacques Gilène ici présent, et nous avons décidé de travailler de manière thématique plutôt que de manière purement chronologique. Les trois thèmes principaux que nous avons décidé de mettre en évidence, c'est bâtir la paix, c'est dénoncer la guerre et agir par la non-violence. Alors, les idées qui se trouvent derrière ces trois thèmes, c'est bâtir la paix, c'est que dès le départ, les associations pacifistes en Belgique, qui apparaissent dans la seconde moitié du 19e siècle, n'ont pas décidé d'attendre la paix. Elles ont décidé d'essayer de proposer des initiatives, des projets pour essayer d'éradiquer la guerre. Et donc, dans cette partie, nous essayons de mettre en évidence les diverses initiatives qui ont été proposées. Alors, il y a évidemment le droit international dont on vient de parler. Mm-hmm. Jacques a évoqué rapidement l'idée de justice. L'idée était que si on favorisait la justice dans le monde, l'égalité entre les hommes, la guerre disparaîtrait. Il y avait aussi l'idée de briser les barrières, d'essayer de lever tout ce qui était des entraves à la connaissance, à l'amitié entre les peuples. Et puis, à la dernière partie de ce chapitre « Bâtir la paix » qui est l'éducation et la culture, puisque pour essayer de favoriser la paix, il faut encourager les jeunes, il faut apprendre dès le plus jeune âge à avoir des attitudes pacifistes, et ça passe par l'école, par la famille, mais aussi par l'art. Mmh. La seconde thématique, dénoncer la guerre, part du principe qu'il ne suffit pas d'essayer de préconiser des choses pour bâtir la paix, il faut aussi dénoncer toutes les entraves à la paix. Alors les trois principales entraves, c'est évidemment l'armée. Donc nous avons une partie qui est consacrée à l'antimilitarisme. Il y a une seconde partie qui est consacrée à l'impérialisme, impérialisme politique et économique, à savoir quand une nation va essayer d'imposer à une autre nation ses choix, c'est essayer d'exploiter une autre nation, ben ça, c'est source de guerre par définition. Et enfin, la troisième source de guerre à éradiquer, c'est la course à l'armement. Pendant très longtemps, et encore d'ailleurs aujourd'hui, les États-nations ont pensé que s'armer, c'était le meilleur moyen d'éviter la guerre, et les pacifistes dénoncent depuis le départ que ce n'est absolument pas un moyen d'éviter la guerre, au contraire, et que tout l'argent qui est dépensé dans cet armement pourrait être dépensé à des causes nettement plus nobles. Enfin, il y a la partie « agir par la non-violence », où nous expliquons déjà la notion de non-violence, c'est-à-dire ce pacifisme radical qui, lui, est opposé à toute guerre. Il faut savoir que le pacifisme est une notion complexe et que pacifisme ne veut pas dire obligatoirement être opposé à toute guerre. Certaines sociétés pacifistes, associations pacifistes, étaient d'accord de mener des guerres justes, des guerres défensives par exemple. Et puis la seconde partie de cette partie « Agir par la non-violence » est consacrée à l'objection de conscience. Un des grands combats menés par les associations pacifistes au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui va aboutir en 1964 avec l'obtention du statut d'objection de conscience.
C'est amusant parce que j'ai visité l'expo mardi après-midi et justement c'était étonnant et il y avait d'autres personnes autour de moi qui découvraient certaines personnalités qu'on connaît encore aujourd'hui qui ont été objecteurs de conscience. C'est amusant. Comment avez-vous pu réunir tout cela ou ces témoignages?
Alors,
citez-en nous quelques-uns d'ailleurs.
Alors il y a Jean Van Lierde qui est le grand représentant du combat de l'objection de conscience en Belgique puisque c'est grâce à lui que ce combat a finalement abouti. Mais avant lui, il y avait eu d'autres personnes comme Maurice Larocque dans les années 20, qui est un des premiers à avoir été emprisonné parce qu'il refusait d'entrer dans l'armée. Bertin Fermont, qui était un nationaliste flamand, lui aussi, qui a été emprisonné pour avoir refusé de servir dans l'armée. Mais alors, au détour de l'exposition, on remarque qu'il y a des personnalités un peu connues des Belges qui ont également été objecteurs de conscience. Je pense par exemple à Kroll, dont nous présentons la carte d'objection de conscience dans l'exposition. Exposition.
Amusant. Mais justement, cette expo, on va s'y promener. Enfin, j'y ai promené un de nos micros. Et pour prendre le pouls, voici quelques réactions de ceux et de celles qui ont arpenté avec moi les méandres du lieu. On écoute.
Sophie Liégeois, employée à la Cité Miroir, à la communication. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir les différentes affiches, le graphisme, parce qu'il y a des choses qui font écho à des affiches d'aujourd'hui, très étonnamment. Au niveau des couleurs, des références, des slogans employés, il y en a qui sont très cash, qui m'étonnent d'être aussi francs pour l'époque. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus vindicatifs. C'est assez intéressant. Ce qui m'épate aussi, c'est de voir vraiment... Il y a des choses qui reviennent, il y a des slogans qui reviennent. Au bout d'X années, on voit qu'il y a des mêmes choses qui sont remises sur le tapis.
Dorothy Bocquen, coordinatrice au Centre d'action laïque de la province de Liège, relations avec les associations. Alors la richesse des supports, les affiches, magnifique. C'est une exposition fantastique à ce niveau-là, parce qu'on retrouve vraiment des affiches qui datent d'une certaine époque, qui sont en parfaite conservation. C'est magnifique. Très franchement, c'est une expo qui est vraiment très très chouette, qui a un très très beau support. Puis c'était vraiment ce qui m'a aussi surpris dans l'expo, c'est de retrouver des personnalités qu'on connaît toujours à l'heure actuelle et qui militent toujours maintenant. Je pense à Marc Garcet, à Pierre Kroll et à Pierre Galland, qu'on voit aussi dans la vidéo. Le Mundaneum aussi, hein, qui était quand même considéré comme l'internet du papier. Donc oui, non, tout ça est vraiment très très intéressant, très riche. Il y a beaucoup à apprendre en venant visiter l'exposition. Oui, oui. Je pense qu'il faut oser, il faut être ensemble, il faut surtout ne pas accepter tout ce qu'on nous donne comme info. Il faut continuer à militer et à résister. Aujourd'hui, c'est très important. Les femmes qui étaient déjà effectivement mises en groupe, qui étaient ensemble, et les femmes socialistes notamment, hein, qui sont ici quand même bien mises à l'honneur aussi, qui montraient leur rôle très très important au niveau tant en guerre, en temps de guerre, et qui militaient déjà énormément pour le pacifisme malgré le peu de droits qu'on leur accordait.
Je suis Philippe Marchal, je suis le directeur adjoint des territoires de la mémoire. Voilà.
Alors Philippe, quand même, hein, je peux le dire, que c'était un peu une plongée aussi dans le passé. C'est votre époque, pourquoi ?
Oui, oui, c'est mon époque parce que, bon, moi j'ai quand même 61 ans, donc j'ai connu tous ces débats sur l'objection de conscience, par exemple, sur le service militaire, hein, obligatoire, mais qui n'était plus après. Mais aussi j'ai travaillé chez les femmes prévoyantes socialistes, par exemple, et proche des mouvements socialistes de jeunesse, etc. Et donc c'est, pour moi, toutes les affiches que je vois ici et tous les témoignages que j'entends, ça parle vraiment. Et je trouve que c'est pas tellement parce que ça me parle, ça devrait parler à beaucoup de monde, et parce que c'est vraiment ça le problème, quoi. Et si on osait la paix, quoi. On a l'impression parfois de vivre dans un monde où la guerre est inéluctable, mais c'est complètement ridicule comme idée. Et je pense que tous ces mouvements pacifistes, tous ces grands pacifistes qui ont travaillé pour la paix dans le monde, etc., savaient bien de quoi ils parlaient. Et c'est une solution pertinente encore aujourd'hui d'oser la paix. Je ne vois pas très bien ce que les guerres apportent, sauf bien entendu pour certains.
Voilà, retour en studio. Cette expo met surtout en exergue les diverses tentatives à mener en vue d'instaurer la paix. On l'a entendu. Mais comment aujourd'hui, Ludo Bettens, pensez-vous, oser la paix face à un terrorisme ou avec un ennemi quasi invisible aujourd'hui ? Est-ce possible ?
Eh bien, c'est toute la question. C'est le grand défi auquel nous sommes confrontés actuellement. Les gouvernements européens ont pris la décision de plutôt axer la réponse sur une voie militaire, une voie de sécurité extrême. C'est un peu oublier justement toutes les leçons du passé, toutes ces solutions qui ont été préconisées, les solutions justement d'égalité au sein d'une planète qui est loin d'être égalitaire. Notre gouvernement a fait le choix actuellement de mettre de l'argent dans les solutions militaires, on parle de rachat d'avions de chasse, dans le même temps les budgets qui sont dévolus à l'éducation, à tout ce qui est animation de rue, etc., sont en diminution. Peut-être que axer davantage une action sur le travail de proximité, le rapprochement entre les gens, l'éradication des injustices, peut-être que ce serait une solution qui vaudrait la peine d'être tentée également, me semble-t-il.
Jacques Gilet, votre avis ?
Je suis du même avis que Ludo. Effectivement, on envisage toujours d'abord la guerre. On s'imagine souvent que l'Europe est en paix depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'est pas vrai. Et la Belgique participe à des conflits, pas seulement en Syrie, mais aussi en Irak ou ailleurs. Et il y a effectivement une tendance trop importante à envisager la guerre plutôt que d'autres moyens qui finalement n'ont jamais ou que trop rarement été tentés.
Voulez-vous un peu de musique, messieurs, pour faire une petite parenthèse? On reste bien dans le ton avec une rengaine pacifiste entonnée par John Lennon, vous connaissez, en 1969, Give Peace a Chance. Eh bien, savez-vous que ce morceau a été enregistré le 1er juin dans la chambre 1742, très précisément, du Queen Elizabeth Hotel de Montréal, en compagnie de quelques amis activistes, des célébrités, des journalistes, dont Petula Clark, Dirk Gregory ou encore Allen Ginsberg. Nombre d'entre eux sont d'ailleurs cités dans ce morceau d'anthologie, et cette chanson deviendra un véritable hymne contre la guerre au Vietnam, un hymne de la contre-culture également. On écoute Give Peace a Chance de John Lennon.
Two, one, two, three, four.
Voilà, Give Peace a Chance, une chanson de John Lennon, radicalement anti-guerre du Vietnam. Nous parlons de pacifisme dans Libre Ensemble ce soir avec nos deux invités, Ludo Bettens et Jacques Gilen. Oui, alors il y a autre chose à proposer que la guerre. Jacques Gilen, vous le disiez juste avant John Lennon, 18 millions de morts lors de la Première Guerre mondiale, la moitié de civils. Que dire de la seconde, en 40-45, plus de 60 millions de morts. Et puis un côté financier, si on évoque la guerre du Vietnam, avec un coût total de plus de 700 milliards de dollars, il y a des choses à faire aujourd'hui qui coûterait beaucoup moins cher en vie et en argent, semblerait-il.
Oui, alors les pacifistes envisagent plusieurs moyens pour résoudre les conflits. Il y a d'abord l'idée du droit international comme instrument de régulation des problèmes qui peuvent se poser. Il y a l'éducation et la culture qui a été évoquée tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est à la base, au niveau du citoyen, que la paix s'inculque, donc instruire sur base des valeurs de la paix, ben, ça va aider pour la suite du parcours individuel.
Et comment réagissent les jeunes d'ailleurs? Si vous avez été en contact l'un et l'autre avec un public, quand je dis jeunes, c'est une expo, si on osait la paix, qui s'adresse plutôt à des adolescents, hein, plutôt que de jeunes enfants. Quel est le retour que vous avez eu ou qui vous semble juste par rapport à l'expo?
Alors je pense que les jeunes sont assez intéressés par l'exposition qui tombe, il faut le dire, dans un contexte très particulier. Hein. Je veux dire, l'exposition a ouvert à peine une semaine après les attentats de Paris. Et des discussions que nous avons eues avec l'un ou l'autre enseignant, il apparaît que les jeunes sont très désorientés en raison de cette actualité. Et donc, les enseignants nous expliquaient que cette exposition tombait à point nommé parce qu'elle permettait justement d'aborder avec les jeunes cette question difficile de la guerre et de la paix. Et les échos que j'ai, c'est que les jeunes sont assez réceptifs. Ils sont étonnés, en fait, des multiples possibilités qui ont été explorées par les pacifistes par le passé, et je pense que ça leur permet justement de se repositionner par rapport à une actualité.
Jacques Gilen, est-ce qu'il y a une méconnaissance de la part de la jeunesse sur tous ces mouvements pacifistes que l'histoire a connus justement?
Oui, clairement, il y a clairement une méconnaissance importante, et une méconnaissance aussi des moyens qui sont possibles pour arriver à la paix.
C'est pour ça que vous avez voulu cette expo, entre autres. Comment est née l'idée de cette exposition, en fait ?
En fait, il y a deux idées qui ont été à l'origine de l'exposition. La première, on voulait faire un contrepoint en commémoration de la guerre 14-18, qui foisonne pour l'instant avec parfois des relents de patriotisme ou de valeurs nationalistes. Et le deuxième objectif, c'était de montrer effectivement que les questions et les solutions proposées par les pacifistes étaient toujours d'une actualité criante. Donc par exemple, quand il est question de désarmement à la fin du Xe siècle, les arguments et les slogans qui étaient utilisés à l'époque restent toujours très très pertinents.
Il y a un livre aussi, hein, je suppose que vous l'avez eu entre les mains, qui est très très bien fait, une anthologie « Quelle connerie la guerre », parue en librairie début du mois de janvier, illustrée par des dessins de Plantu. Il contient un peu moins d'une centaine de références sur la tolérance, le pacifisme et la fraternité universelle, des textes choisis qui découlent d'un subjectivisme assumé par son co-auteur et président de la Fondation Henri Lafontaine, Jean-Paul Barras. On l'écoute nous parler de cette anthologie.
Vous savez que la Fondation Henri Lafontaine, que j'ai l'honneur de présider, donne un prix biennal, et ce prix en 2014... fut octroyé à l'association Cartooning for Peace, qui est une association créée par Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, et Jean Plantu, le dessinateur du journal Le Monde, entre autres. Et donc, en ce sens, nous avons eu l'occasion de remettre ce prix, qui est d'une valeur de 10 000 euros, à Jean Plantu et à l'association Cartooning for Peace, le 9 décembre 2014 à Bruxelles. Et nous avons pensé ensemble à ce livre. Et c'est ainsi qu'il est né et le projet a pris une dimension tout à fait particulière un mois plus tard, puisque je vous parle d'une conversation qui a eu lieu le 9 décembre 2014 le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo s'accomplissaient à Paris. Le travail consistait à chercher des textes et à ensuite essayer de trouver dans l'œuvre de Plantu des dessins qui y correspondaient. Et pour ce qui nous concerne, nous avons travaillé en parallèle sur deux aspects. Ou bien nous prenions des auteurs, tantôt des auteurs très connus, avec des textes beaucoup moins connus, ou l'inverse, des textes qui méritaient sans doute d'être révélés au grand public, comme on dit, avec des auteurs qui ne l'étaient pas nécessairement. Je prends l'exemple d'Albert Camus. Albert Camus est un auteur évidemment très connu, dont la plupart des œuvres pourraient être reproduites d'une manière ou d'une autre par extrait dans une anthologie comme celle-là. Nous avons choisi l'éditorial du 8 mai 1945, qui est très très peu connu, qui est l'éditorial qu'il a publié dans son journal Combat le 8 mai 1945, c'est-à-dire deux jours après l'explosion d'Hiroshima. Et c'est évidemment un texte particulièrement vibrant et plein d'émotions, mais également déjà un texte visionnaire par rapport à la prolifération des armes nucléaires et à ce que l'homme venait de découvrir, c'est-à-dire qu'il était capable de démolir son propre cadre de vie, sa propre planète. Et parallèlement à cela, nous proposons un texte qui est paru dans Le Monde le 9 août 2015, c'est-à-dire pour le 70e anniversaire d'Hiroshima, et qui est signé par le directeur du musée de la bombe atomique de Nagasaki, et dont le texte lui-même est particulièrement important, et il acquiert encore une importance plus grande dans le même temps, en parallèle évidemment avec celui d'Albert Camus, voyez-vous.
Voilà un livre important, « Quelle connerie la guerre », en continuité, en lien avec l'expo dont nous parlons, hein, qui est à Liège pour le moment. Ludo Mettens, est-ce que le Mundonarium et l'IHOES, si je le dis bien, profitent de ce livre aussi pour lancer des pistes un peu partout et toucher le plus de gens possible.
Alors, l'exposition est l'occasion justement d'essayer de faire sortir la thématique de la paix des simples murs de la cité miroir. Nous avons essayé, depuis le début de la préparation, d'essayer de prendre contact avec d'autres associations en région liégeoise pour essayer que des activités multiples soient organisées autour de la paix. Et donc, il y a, depuis le début de l'exposition, de manière récurrente, des spectacles, des débats qui ont été organisés. Il y en a encore dans les semaines qui viennent.
Dites-nous, on va prendre note.
Il y a déjà, par exemple, des animations qui sont destinées à un public de jeunes et un public d'enfants, mais on va dire à partir de 10 ans. Elles auront lieu le 31 janvier à la Cité Miroir à 14h et à 15h30, qui sont des animations à la fois visite guidée, mais aussi lecture d'albums pour enfants. Une animation plutôt à destination des adultes avec des lectures de textes. On revient au texte sur
la paix. Et il y en a, Dieu sait
s'il y en a. Qui aura lieu, elle, le 7 février à 14h30. Elle est accompagnée, elle aussi, d'une visite guidée et puis d'un petit récital par une chorale locale qui va chanter quelques chants pacifistes. Et puis, alors, il y a une conférence qui a lieu le 4 février à 19h30 à la Cité Miroir qui s'appelle « Quelle Europe de la défense ?» et qui est donnée par Federico Santopinto du GRIP, et le 12 février à l'Université de Liège, un séminaire autour du pacifisme avec la venue du professeur Jean-Marie Gueux, maître de conférence en histoire contemporaine et à l'Université de Paris 1 Sorbonne. Donc vous voyez, des animations assez diversifiées pour essayer de prolonger la réflexion sur le pacifisme.
À Liège, l'expo prendra fin le 21 février, Jacques Gilène, mais elle ne meurt pas pour autant, elle va vivre encore une grosse année. Et dites-nous où on pourra la trouver ensuite.
Alors ensuite, elle sera présentée à l'ULB dans la salle IND du 10 mars au 22 avril, dans une version condensée, parce que l'espace ne permet pas de... voilà. Et dans un troisième temps, au Mundaneum à Mons, du 15 septembre 2016 au 15 mai 2017. Et puis nous espérons pouvoir la faire voyager en Flandre, et qui sait pourquoi pas ailleurs.
S'il y a des demandes, il y en a déjà ?
Pas encore.
Lorsqu'on termine la visite, il y a un grand tableau noir où on peut noter ses impressions, on peut faire part d'eux. C'est ça aussi le pacifisme, c'est pouvoir communiquer, c'est pouvoir écrire sur les murs des slogans, des choses qu'on a envie de dire. Est-ce que vous avez vous-même noté quelque chose sur le tableau noir ? Qu'est-ce que vous auriez envie de noter si on vous donnait une craie, là, tous les deux ?
Moi, j'aime beaucoup la réflexion qui a été reprise, qu'on avait vue sur les murs de Paris au lendemain des attentats, et qui est d'ailleurs reprise sur le mur, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'est « Si la guerre est la réponse, il faut peut-être changer la question ». Je trouve que cette phrase est vraiment symptomatique et très intelligente.
Jacques Gilène, une histoire en marche vers la paix. Un petit mot de la fin pour exprimer la paix. Est-ce que le Mundaneum, est-ce que c'était difficile de ressortir tous ces textes, ou est-ce que on les a sous la main et on, je ne veux pas dire qu'on les regarde chaque jour, mais il y a vraiment des choses qui sont très actuelles, des slogans qu'on a vus là-bas et qui sont vraiment très actuels.
Alors ça n'a pas été facile de trouver tous ces documents parce qu'ils étaient éparpillés dans différents fonds, dans différents centres d'archives et collections privées ou bibliothèques. Et d'autre part, il n'existe pas d'histoire du pacifisme en Belgique. Il y a bien l'un ou l'autre travaux qui ont été réalisés dans le passé, mais il n'existe pas d'histoire exhaustive du pacifisme en Belgique. Donc dans le travail de réalisation d'exposition, on a dû reconstruire cette histoire qui était absente de l'historiographie.
Je le disais en entrée de jeu, il y a eu 4 prix Nobel de la paix en Belgique. On ne les a pas cités. Dites-nous, qui était-il en fait, pour terminer cette émission sur cette belle thématique ?
Alors, le premier, c'est l'Institut de droit international qui reçoit le prix Nobel de la paix en 1904. Donc, institut créé à Gand avec l'objectif de développer justement le droit international, les idées d'arbitrage, etc. Le deuxième, c'est Auguste Bernhardt en 1909. Homme politique catholique qui a présidé l'Union interparlementaire notamment. L'Union interparlementaire a été créée en 1889 dans le but de rassembler les députés des différentes assemblées nationales qui étaient sensibles à la question de la paix, de façon à pouvoir envisager une manière commune de défendre la paix dans leurs assemblées respectives. Le troisième est Henri Lafontaine, dont nous avons déjà parlé. Et le quatrième est le père Dominique Pire en 1958, le créateur des îles de paix qui est assez connu en Belgique, les petits personnages oui. qu'on assemble sont
qu'on a vendu il y a quelques semaines ce mois-ci. Voilà, donc la Belgique a compté dans l'histoire du pacifisme, pourvu qu'elle compte aussi dans l'avenir de celui-ci. Donc une expo à voir à Liège jusqu'au 21 février. Voilà ce qui referme ce numéro de Libre Ensemble. Merci d'avoir été avec nous, à tous les deux. Merci à nos invités et nos auditeurs de nous avoir suivis. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Restez branchés sur la première pour la suite des programmes. À très bientôt et belle soirée à tous.